crainte que l'ombre de la tour pointue répand sur le monde des malfaiteurs. Elle la doit en partie au système de reconnaissance établi par Alphonse Bertillon. C'est là qu'il mit au point une nouvelle technique d'identification basée sur les mensurations et la classification des apparences physiques. Dans ses locaux, sous les combles de la préfecture de police de Paris, où sont toujours logés ses services et où, depuis 50 ans, sont montés et descendus tant de pas. Ce fut la naissance de l'anthropométrie qui a permis dans la recherche des criminels tant de succès éclatants. Avec l'adjonction de la photographie et l'adoption du système des empreintes, l'identification judiciaire disposa alors d'un arsenal efficace qui a permis l'établissement d'un véritable fichier du crime et qu'ont adopté les polices du monde entier. Saluons avec le professeur Sanier qui la continue, l'œuvre de Bertillon qui naquit voici justement 100 ans.
Voici comment on rendait hommage à Alphonse Bertillon dans les Actus françaises en 1953 et les travaux de ce précurseur intéressent toujours aujourd'hui. Pierre Piazza nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste de l'histoire de la police scientifique. Il y a 140 ans, hein, en 1879, Alphonse Bertillon intègre la police de Paris, mais à l'époque comme un simple employé, et pourtant il va révolutionner la façon de mener les enquêtes.
Oui, c'est cela. Alors, les appréciations qu'a obtenues Alphonse Bertillon lorsqu'il a passé ce petit concours de commis aux écritures, grosso modo, c'est médiocre et style négligé. Et quand on voit ensuite la carrière qu'il a eue, il a eu la Légion d'honneur, il était comparé à Pasteur à l'époque, tout simplement parce qu'il a inventé pour la première fois un dispositif policier d'identification des individus à peu près fiable, reposant sur quatre piliers. Le petit documentaire que vous venez de diffuser l'indique, l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire qu'on peut identifier les personnes en mesurant leurs caractéristiques physiques. Ensuite, la photographie, hein, qu'il fait devenir judiciaire, la photographie face profil, hein, qu'on connaît tous maintenant.
Il standardise les photographies
voilà,
pour qu'elles soient comparables.
Voilà, il homogénéise la façon de faire les photographies pour les standardiser. Et ce qui intéresse Bertillon, c'est surtout la photographie de profil, et c'est le troisième pilier, c'est parce qu'on y trouve des caractéristiques intéressantes, notamment l'oreille. Hein, Bertillon compare l'oreille à une empreinte digitale, on a tous des oreilles différentes, et puis la forme du nez, du menton, etc.
C'est-à-dire que, grâce ou à cause de Bertillon, tout... les prévenus, les suspects sont mesurés. Alors je crois qu'il y a 12 parties du corps qui
voilà,
sont mesurées.
Voilà, 12 mensurations, le pied, la hauteur bien sûr, la taille, mais aussi l'envergure des bras, la taille de la coudée, hein, du coude au médius, etc. La photographie donc, et puis la description mathématique du visage, et enfin le quatrième pilier que je n'avais pas précisé, que sont les stigmates corporels, à savoir qu'on a tous des stigmates qui permettent aussi de nous identifier, comme les grains de beauté, les cicatrices et de plus en plus les tatouages.
Alors ces nouvelles méthodes vont rapidement permettre de confondre notamment un délinquant récidiviste. Alors il faut bien se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y a pas de carte d'identité. C'est beaucoup plus facile hein, de gruger la police et de ne pas révéler son identité
oui,
quand on est arrêté.
Oui, les cartes d'identité, on a quelques documents, passeport à l'intérieur, livre ouvrier, mais les documents sont très peu fiables. L'état civil n'est pas fiable non plus. Et puis, bien évidemment, les délinquants récidivistes vont avoir de plus en plus intérêt à changer d'identité, en tout cas à s'affubler d'identité multiple. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi extrêmement répressive qui est votée le 27 mai 1885, qui est la loi sur la relégation. C'est-à-dire que chaque récidiviste, hein, chaque personne condamnée plusieurs fois a le statut de récidiviste et va être expulsée en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Donc il vaut mieux faire plusieurs crimes et délits sous des identités différentes pour éviter le cumul des peines.
Ouais. Alors justement, Bertillon, alors on va appeler ces méthodes le bertillonnage.
Hein. Oui.
Il crée même, il fait créer des instruments de mesure pour que dans tous les commissariats, on puisse prendre avec la même précision les mesures et justement identifier des criminels qui seraient les mêmes mais qui auraient des identités
alors
différentes.
Exactement, on a tout un tas d'instruments qui intègrent la panoplie policière. Bien sûr, il y a des toises, il y a des meubles pour poser le bras et mesurer la coudée, par exemple. Il y a aussi des meubles pour mesurer le pied et tout un tas de compas pour mesurer la tête. Et puis, un instrument qui devient décisif aussi sont les fichiers, parce que toutes ces données sont retranscrites sur des fiches, donc des données à la fois signalétiques, mais aussi des données photographiques, et puis ensuite les empreintes digitales. Et ces fiches, hein, bon, Bertillon appelle ça la fiche parisienne, qui fait 15 cm sur 15 cm, et bien ces fiches alimentent des fichiers de plus en plus gigantesques.
Et puis il va être aussi le premier au monde à identifier un meurtrier non présent sur les lieux. grâce aux traces digitales que le meurtrier aura laissées sur les lieux. C'est le premier.
Oui, c'est la fameuse affaire Schaeffer, c'est-à-dire le premier identifié à partir des traces digitales laissées sur une scène de crime, un individu qui n'y est pas présent et qui vient de commettre un meurtre. Alors c'est un peu paradoxal parce que Bertillon refuse de classer ses fiches par empreinte digitale. Et dans ce cas, il va comparer les traces trouvées sur la scène de crime avec des empreintes qu'il appose quand même sur ses fiches. Et il va faire les fiches une à une et va établir cette correspondance entre les traces et les empreintes, mais de manière un petit peu étrange. Certains diront qu'il ne l'a pas fait comme ça d'ailleurs. Certains diront qu'on suspectait Schaeffer et qu'il est allé voir s'il y avait une fiche au nom de Schaeffer et qu'il a ensuite comparé les empreintes sur la fiche avec les traces retrouvées sur la scène de crime.
Toujours est-il qu'il va inspirer les polices du monde entier. À son époque, Bertillon est célèbre, reconnu, hein, sur la terre entière, mais il va commettre quand même des erreurs retentissantes, et notamment dans l'affaire Dreyfus, oui. Où il va vouloir utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la graphologie, c'est-à-dire essayer d'étudier l'écriture pour identifier l'auteur de ces mots inscrits.
Exactement, donc c'est Bertillon qui va être dépêché comme un des experts en graphologie, alors lui parle plutôt d'expertise graphique, mais c'est le début de la graphologie. C'est un champ d'expertise qu'il investit, et donc il est mobilisé dans l'affaire Dreyfus pour analyser le bordereau. Il est convaincu de la culpabilité de Dreyfus et donc il va échafauder toute une théorie un peu fumeuse. C'est la théorie de l'auto-forgerie. Dreyfus aurait auto-forgé son écriture volontairement en mélangeant son écriture avec celle de son frère Mathieu Dreyfus. Et bien sûr, il va être pris dans la tourmente, hein, dans la grosse polémique entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. On va demander sa démission, il va être accusé de folie, d'antisémitisme, etc. Donc il est pris un peu dans la spirale politique de l'époque.
Et Bertillon a aussi suscité des inquiétudes et des débats, évidemment, avec cette façon de mettre tout le monde en fiche. Il crée aussi des questionnements que l'on a toujours aujourd'hui lorsque l'on crée ces gigantesques fichiers.
Alors, on a une tension qui commence à naître entre, bien sûr, la nécessité qu'ont les pouvoirs publics de répondre à des impératifs de sécurité. Ils sont nombreux, le crime, la délinquance, et puis il ne faut pas l'oublier, le terrorisme déjà à l'époque, avec les attentats anarchistes, notamment à travers Ravachol et la bande à Bono. Et puis, d'un autre côté, de plus en plus, la volonté en démocratie de préserver des choses qui sont précieuses, comme la vie privée et les libertés publiques. Donc on a cette tension permanente que pose, bien évidemment, la massification du fichage par Bertillon dès la fin du 19e siècle.
Aujourd'hui, dans les techniques utilisées par la police scientifique, que reste-t-il de l'approche d'Alphonse Bertillon?
Il reste beaucoup de choses, énormément de choses. Il reste, par exemple, les photographies métriques de scènes de crime qu'on utilise toujours, les plans que l'on établit à partir de ces photographies métriques. Il reste la rationalisation du signalement sur les documents d'identité. Il reste quand même l'usage des empreintes digitales, parce qu'on utilise toujours les empreintes digitales et les traces digitales, bien sûr, qu'on essaye de révéler et de faire parler. Les fichiers massifs, bien sûr, hein, qui prennent une forme informatisée, mais ils étaient déjà massifs avec Bertillon. Donc il y a beaucoup de choses, vous voyez, des logiques très 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 lourdes qu'on retrouve, bien sûr, avec une évolution particulière des technologies, mais les logiques sont déjà là dès la fin du 19e.
Vous qui vous êtes intéressé à l'évolution de toutes ces techniques scientifiques, est-ce que vous pensez, Pierre Piazza, qu'un jour on verra venir l'heure du crime avant même que le crime ne soit commis?
Et si on veut jeter un petit œil sur l'histoire, on s'aperçoit déjà que Bertillon a cette volonté de police proactive, c'est-à-dire d'anticiper les comportements. Par exemple, il dit clairement, une fois que les délinquants et les criminels auront pris conscience qu'ils sont fichés dans les fichiers de police, qu'à tout moment, on peut ressortir leur véritable identité, eh bien, ils vont y réfléchir à deux fois maintenant, et bon, peut-être se ranger dans le droit chemin. Hein. C'est-à-dire que les instruments policiers, à travers les instruments policiers nouveaux, les fichiers, les traces, etc., Bertillon a ce fantasme un peu qu'il va changer le comportement des délinquants et des criminels. Mmh. Mais on entend encore ça avec la vidéosurveillance, on entend encore ça avec le fichage ADN. Hein. Mmh. Maintenant que la police est dotée d'instruments efficaces, eh bien peut-être que les personnes vont changer de comportement.
Les techniques évoluent, mais les préoccupations et les espoirs et les inquiétudes restent les mêmes.
Il y a aussi cette idée qu'à travers la technique, on va gérer les questions d'insécurité. Hein, ce fantasme que la science a développé par Bertillon, et qu'on trouve aussi maintenant dans toutes les séries sur les experts, qu'à travers la science et la technique, on va pouvoir résoudre les problèmes de délinquance et de criminalité, qui sont des problèmes humains. Donc est-ce qu'on résout bien les problèmes humains à travers seulement la science et la technique, ou bien est-ce qu'il faut remettre plus d'humains en matière de sécurité sur le terrain? Donc c'est des modèles de police, finalement, qui sont totalement différents. Moi, je pense qu'il faut les deux, mais il ne faut pas surinvestir un domaine plus qu'un autre.
Merci, Pierre Piazza.
C'est moi qui vous remercie.
Je signale aussi l'ouvrage que vous avez avez écrit avec Richard Marlet, La science à la poursuite du crime, d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment toute l'histoire de la police scientifique que vous retracez. C'est paru aux éditions de La Martinière. Merci à vous.
Merci à vous.